Bon vendredi, bon début de week-end de 16h02. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. Comment ça va dans la circulation, Max? On est en plein cœur de l'heure de pointe. Qui vous sépare de votre fin de semaine?
Ça va pas super bien. D'abord, accident mentionné, Robert Bourassa Nord, fin de l'accès du boulevard versant Nord. C'est partiellement entravé. Accident de la Sûreté du Québec qui est sur place. La capitale, c'est pas si pire que ça. Direction Est, un petit peu après le boulevard Neuvial, il y a quand même un bon ralentissement qui se fait sentir, mais ça s'arrête juste à Pierre-Bertrand, fait que pas la fin du monde. Capitale-Ouest, petit ralentissement dans le coin de boulevard Henri Bourassa, mais ça non plus, c'est pas la fin du monde. Là où c'est vraiment plus difficile présentement, c'est vraiment dans le secteur des ponts. Passer de la rive sud à la rive nord, pas facile. Passer de la rive nord à la rive sud, pas facile non plus. Fait que à partir du moment où vous avez un pont à traverser présentement, c'est assez compliqué de le faire.
Et vous rappelez que non seulement présentement, il n'y a pas de troisième lien dans la région de Québec, mais en fin de semaine, encore une fois, il n'y aura pas de deuxième lien.
Puis on a encore juste un traversier, hein?
Jusqu'à preuve du contraire, en effet, on n'a pas eu de communication contraire.
Fait que un traversier, un pont, je demanderai à tous les habitants de rester sur leur rive pour l'essentiel du week-end. Les transferts sont périlleux et rajouter un peu de délai à vos itinéraires, sont habitués de vivre dans le trafic, eux autres, à Montréal. On s'en va de l'autre côté des autoroutes rejoindre notre ami Pierre Houde. Salut, Pierre!
Salut, Denis. Nous aussi, on a des liens difficilement praticables à Montréal. Mais comptez sur moi pour ne pas aller vous engorger moi-même davantage dans la fin de semaine, parce que je m'en vais à Philadelphie. Alors, puis j'ai de la F1 demain. Alors, je ne serai pas celui qui va aller mettre... comme on dit, tout le trouble dans les transits des deux rives à l'autre. Si ça arrive, c'est pas moi. Dites-vous que c'est pas moi.
Pierre, habituellement, on est très discipliné avec toi, mais Gravel dans le retour, je pense que tu as appris à nous connaître un peu. Des fois, on est un petit peu espiègle, on est un petit peu juvénile. Tu es au courant de ça?
Je suis au courant de ça, oui.
Je voulais te partager les bonnes blagues qu'on avait faites cette semaine. Je sais pas si...
Oh, wow, oui!
Je sais pas si t'es au courant des vieilles blagues de Chuck Norris. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Non, ça ne me dit rien à la base.
Tu sais c'est qui?
Explique-moi.
Tu sais c'est qui Chuck Norris?
Bien sûr.
Il y a une série de blagues qui est disponible un peu partout sur Internet.
En anglais comme en français. En fait, c'est international.
On comprend que Chuck Norris, c'est la personne la plus forte qui est en mesure de régler tous les problèmes de l'univers. Comme par exemple,
bien sûr.
Si Chuck Norris avait été là à l'époque des dinosaures, il n'y aurait pas eu de Big Bang et ainsi de suite. on a commencé notre propre série de blagues cette semaine ici dans le retour. Au lieu de faire des blagues, si Chuck Norris avait été là, nous autres, on a parti une série de blagues qui s'appelle « Si Albert Jacquard avait été habillé ». Alors, je t'en partage quelques-unes. Si Jacquard avait été habillé, on aurait eu un troisième lien et un tramway à Québec. Si Jacquard avait été habillé, Gretzky n'aurait jamais scoré un but de sa vie. On s'est amusé. On en a sorti beaucoup sur mon Facebook cette semaine. Mais au total tout, on s'est amusé avec le fait que Albert Jacquard était rendu la solution pour certains à tous les problèmes du Canadien, alors qu'une défaite de 7-2 ne se résume pas à une partie de ta poche qui n'a pas eu lieu après une mise en échec, là.
Non, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que si Chuck Norris peut régler tout, encore faut-il qu'il n'y ait qu'une chose à régler, tu vois ce que je veux dire. Puis le match de mardi, c'était deux affaires dans le pont. C'est l'écroulement du Canadien en début de match.
Wow.
Après une cérémonie simple, mais hautement émouvante, où tu avais une quinzaine de joueurs de la grande dynastie des années 70 et des quatre conquêtes de Coupe Stanley, tu as eu donc cet effondrement en partant qui a été catastrophique et qui est encore aujourd'hui très difficile à expliquer et encore plus difficile à accepter. Mais tu as eu aussi le coup extrêmement vicieux, le coup sournois, le coup fait pour faire mal et pour blesser. Moi, je n'ai pas peur des mots, même si la Ligue nationale de hockey fait l'autruche et s'en tient toujours à son maudit libellé de règlement.
Parce que le coup est légal, proprement dit, d'après
parce
toi?
Parce que le coup est légal, proprement dit, c'est drôlement dit, proprement dit. C'est tout sauf propre, un coup comme ça. Mais c'est propre dans le libellé du règlement de la Ligue nationale. On y est revenu. Je croyais qu'on s'en était débarrassé, Denis, il y a quelques années. On y est revenu parce que, j'imagine, qu'on aime ce genre de violence sans trop le dire trop fort dans les bureaux de la Ligue nationale. Et donc, on s'en tient maintenant à la technicalité, au bar sur les T, puis au point sur les I, puis aux virgules. On s'en tient maintenant à ça pour dire « Ah, tout à fait légal. » OK, légal, d'accord. Tu me faisais un parallèle avant d'aller en onde avec la F1, puis on y reviendra. Oui, il y a des règles, puis oui, en F1 aussi, on cherche à dévier des règles, ou on cherche à les étirer au maximum pour gagner un quart de seconde, pour gagner 20 centièmes. Et oui, dans la Ligue nationale, l'intimidation n'existe pas que par les points, ça existe aussi par des arracheurs de tête comme Jacob Trouba, qui est comme ça depuis qu'il a commencé sa carrière, et qui, si tu regardes ses minutes de pénalité, en a un niveau étrangement bas parce qu'il s'en tire. Il s'en tire pourquoi? Parce qu'on revoit les vidéos, puis on recommence, puis on fait la pause sur image, puis on avance, puis on recule, puis on fait la pause sur image. Puis, c'est-tu les pauses, c'est-tu le coude? Bref, tu peux arracher la tête de quelqu'un avec tes fesses, avec ton genou, avec ton épaule. Mais si tu le fais avec le coude, par exemple, oh, là, peut-être que tu vas avoir quelques matchs de suspension.
Qu'est-ce que tu réponds? Je suis curieux d'entendre ce que tu réponds aux gens, Pierre, qui disent, ben là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est aux gens à se tenir la tête haute quand tu t'en vas jouer contre un train comme Trouba. Il y a des gens qui ont répliqué en disant, c'est ta responsabilité de te protéger dans la Ligue nationale de hockey.
Et la plupart des joueurs disent ça, puis je les respecte. Ouais. Et je n'ai jamais joué au hockey, à part au hockey dans la rue, puis un peu sur mes patins, mais j'étais tellement mauvais comme patineur. Et je respecte ça de la part de ceux qui sont dans mon entourage ou de ceux qui ont joué et de ceux qui en ont fait une espèce de règle absolue non écrite.
Ouais.
Hein? Protège-toi, garde-toi la tête haute, regarde pas la jolie passe que tu viens de faire, regarde plutôt l'adversaire. Ouais. Je comprends tout ça. Ceci dit, je fais le parallèle avec le football, qui, à la base, est un sport encore beaucoup plus violent, parce qu'à chaque jeu, tu vas ou tu risques de frapper quelqu'un ou de te faire frapper par quelqu'un, et où on a eu le courage de dire, peu importe comment, peu importe le libellé, peu importe la partie du corps, il y a maintenant des règles qui permettent aux arbitres de sévir contre la rudesse excessive. Et ça, est-ce que c'est si compliqué? Explique-moi. Est-ce que c'est si compliqué de dire dans une séquence c'est de la rudesse excessive?
Mais
entre le joueur qui rentre la tête basse, tu sors la hanche puis tu lui donnes une bonne mise en échec de la hanche, entre ça puis dire, je vais le frapper à un quart de pouce en dessous de la tête parce que je sais que je vais le faire mal, je vais y faire mal, puis je vais le sortir du match. C'est pas facile de faire la distinction entre les deux.
Je suis peut-être cynique un peu, Pierre, mais j'ai l'impression que les équipes et la Ligue nationale de hockey aiment ça, mettre ce genre de geste-là dans des beaux vidéos avec du Linkin Park en arrière, que ce soit quand l'équipe locale arrive sur la patinoire ou pour faire le tour des meilleurs moments de la semaine. Là.
OK, Denis, mais ça, je vais te le concéder. Puis tu iras voir, mais on est à une autre époque. Autre
je
époque,
comprends.
Autre mœurs. Puis va voir, je ne sais pas si tu as peut-être déjà vu, quand Scott Stevens a été intronisé au temps de la renommée du hockey. J'écoutais la cérémonie à la télé ce soir-là. Et puis à un certain moment donné, on présente un montage de la carrière de Scott Stevens. Écoute, j'ai arrêté après 5 minutes. C'était déjà 5 minutes sur je ne sais pas combien, sur 7, 8, 9... Des tentatives de meurtre. C'est pas tellement compliqué. Là.
Son CV est rempli, mettons, Pierre.
Mais c'était que ça.
Ouais.
Et pourtant, Scott Stevens a fait autre chose, mais il était devenu, à un certain moment dans sa carrière, un des joueurs les plus salauds.
Oh! On vient de perdre Pierre. Hein? Pierre, on a plus ton son.
C'est pas vraiment dénaturer le hockey
que d'avoir le courage de dire nous allons tracer une limite sur ce qui est acceptable et sur ce qui n'est pas acceptable.
Pierre, on va s'interrompre quelques instants parce qu'on a un accident majeur à traiter de notre côté, puis on faisait des blagues avec le seul pont qui est traversable en fin de semaine à Québec. Mais là, il y a eu un carambolage monstre sur le pont La Porte, Max.
Ouais, certains nous parlent de jusqu'à une dizaine de voitures. Un autre texto nous dit 5-6 voitures impliquées. Là. On est en direction sud présentement, carambolage pont Pierre-Laporte. Donc, ça va faire mal à la circulation.
Je dirais que si vous êtes en capacité de le faire, le retarder vos déplacements, oui. Peut-être vous trouver un Normandin pas loin, prendre le temps de souper parce que l'heure de trafic va être vraiment, vraiment pénible. Et c'est déjà le cas au moment où on se parle, 418-971-1021. Pierre...
418-971-1021. Pierre...
On a ton son de Twitter.
Oui, je pense que...
Ah, voilà.
Ça va, Pierre?
Oui, écoute, okay, Denis, on est là. J'ai un problème avec mes petits écouteurs.
OK.
Est-ce que vous m'entendez?
On te reçoit très bien. Nous entends-tu comme il faut?
Moi, je ne vous entends pas. C'est ça le problème.
Ah, c'est ça, c'est le son de l'ordinateur.
Alors,
qu'on avait.
Est-ce qu'on se donne 30 secondes pour rebrancher, débrancher?
On peut essayer ça, oui. Essaye-le, puis sinon, on se téléphone.
Je suis vraiment désolé.
Oh, non, pas de problème. On t'attend, ce sera pas long.
OK.
Merci, Pierre. C'est ça, la vraie radio. On cache rien avec Pierre, vous le savez. Là. Rappelez l'accident, Max, là, c'est quand même majeur, puis je pense qu'on va être dans le trouble pour au moins la prochaine heure.
Oui, pont Pierre-Laporte, direction sud. Important accident là, de 5, 6 à 10 voitures, selon les infos qui entrent par texto. Par le Québec 51, ce qu'on nous dit, c'est voie de gauche, voie de droite bloquée, voie du centre partiellement entravée. Donc, important accident, pont Pierre-Laporte, direction sud. C'était déjà compliqué dans le secteur des ponts dans les deux directions. Ça ira pas mieux dans les prochaines minutes. Puis si on fait le tour un petit peu de la circulation ailleurs, là, la capitale direction Est aussi, ça c'est compliqué. Dans les derniers instants, le boulevard Neuvial jusqu'au boulevard Pierre-Bertrand, c'est pas mal là que le rouge est concentré. Sinon, il y a peut-être Laurentienne à mentionner en direction nord à partir du boulevard de l'Atrium jusqu'au boulevard Jean-Talon-Ouest. Mais le gros bordel, pas mal dans le secteur des ponts qui est pogné.
Pierre, es-tu avec nous autres?
Ben, écoute, je vous entends de très loin. Si vous m'entendez bien par mon téléphone, on va essayer de continuer comme ça.
OK, ben Pierre, on va se parler d'Arbor Jacky, Pierre.
En fait, je pense que ce serait plus sage d'utiliser le bon vieux téléphone. OK. Je suis vraiment désolé.
T'as-tu le numéro de la hotline? On va te le texter à l'instant. Il n'y a pas de problème.
Oui, si vous me le textez à l'instant, je vous appelle tout de suite. Vraiment désolé.
Parfait. Il n'y a pas de problème, Pierre. On va se connecter du côté du téléphone dans les prochaines secondes. Puis j'avais l'impression d'animer une soirée canadienne près de chez nous. Fait que je pense que c'est pas le bon ton à employer quand on jase avec Pierre Aude. Je veux qu'on prenne le temps de jaser du point de presse de Martin Saint-Louis, là, où il a pointé directement du doigt Jacky comme un gars qui doit en donner plus et qui doit fournir l'effort puis être conscient qu'il doit en donner plus aussi.
Ouais, ben en gros, ce qu'il a dit, c'est... Quand tu fais des erreurs, ben faudrait que ça te dérange. Puis j'ai hâte d'entendre l'avis de Pierre là-dessus, parce que moi, comment je l'ai vu, c'est vraiment... Jacky, il joue mal, puis on dirait que ça le dérange pas de jouer mal. Moi, c'est de même que je l'ai entendu.
Il me semble que Martin Saint-Louis, depuis qu'il est coach avec le Canadien de Montréal, n'a pas souvent pointé directement du doigt un joueur de cette façon-là. Pierre, t'es là?
Oui, je suis là. Alors... Désolé, on va se rabattre sur les vieilles techniques.
C'est pas grave. Écoute, une fois de temps en temps, se jaser par téléphone, il n'y a pas de problème. On voulait t'entendre, Pierre, sur le point de presse que Martin Saint-Louis a donné. C'est une conversation en anglais. Il répondait à des journalistes, puis on a été un peu surpris de le voir pointer directement un joueur. Encore une fois, on va parler d'Arbor Jacky. On dirait que c'est le seul sujet dans l'entourage du Canadien. Mais il a été très direct sur le fait qu'il devait en donner plus puis que ça devait le déranger quand il faisait des erreurs. Ça semblait sous-entendre un problème d'attitude, peut-être, du côté de Jacky. J'ai senti Martin Saint-Louis impatient aussi par rapport à sa déclaration. Je ne sais pas si tu as entendu ça, puis je suis quand même curieux de t'entendre là-dessus.
Ben, c'est-à-dire que moi, je pense que je pense que Martin Saint-Louis le dit comme ça sur deux bases. Et non pas sur une base d'attaque personnelle contre un joueur. Je pense que ce que Martin Saint-Louis dit, c'est que, bon, là, l'argument de la jeunesse, ben,
ça marche plus.
Il tient moins, là, pour les, pas juste pour Arber Jacky. C'est vrai pour Suzuki. C'est vrai pour Slavkovski. C'est vrai pour Kaydon Goulet, bien qu'il soit blessé présentement. Alors, il faut pas se leurrer. Aucun entraînement et dans les matchs où on l'a vu à l'œuvre, en saison régulière, il n'a pas été à la hauteur. Il y a eu quantité d'erreurs, des erreurs d'exécution, des erreurs de reconnaissance de la situation, des erreurs de décision. Et oui, d'accord, c'est un redresseur de tort, puis il n'y a pas d'équivalent avec le Canadien, mais lorsqu'il a été appelé à le faire, autant en match préparatoire que les quelques fois qu'on l'a vu cette saison, il ne l'a peut-être pas fait de la bonne façon, puis il ne l'a peut-être pas fait au bon moment. Et si tu additionnes tout ça, puis tu regardes les joueurs qui sont à ta disposition, ben je peux comprendre Martin Saint-Louis d'avoir choisi d'aller dans une autre direction, particulièrement quand Jaden Struble a été guéri et qui a été en mesure de jouer. Alors, je pense que le message, il est légitime. On t'envoie pas à Laval, on te paie pas au balotage, on t'échange pas à une autre équipe, mais voici les bases sur lesquels repose ton retour dans la formation. Maintenant, avec la quantité de blessures qu'il y a chez les Canadiens, c'est bien clair que son retour va être automatiquement assuré, du moins en fin de semaine. Mais je pense que le message, il est légitime pour le joueur concerné. L'autre volet qui est important, Martin Saint-Louis a dit, je vais toujours continuer à parler à mes joueurs, je vais toujours continuer à être disponible, je vais toujours continuer à enseigner. Ça, il l'a dit à répétition encore cette semaine, puis encore aujourd'hui. Mais il a dit, là, je vais être un entraîneur quand même plus dur. Je vais coacher un peu plus à la dure. Et je pense que c'est ce qu'il a réalisé récemment et particulièrement après le match contre les Rangers de New York. Et si tu lis ses propos aujourd'hui, quand il dit, écoutez, là, c'est pas mon système, c'est aux joueurs de l'appliquer, c'est aux joueurs de me prouver qu'ils sont assez intelligents pour comprendre et qu'ils sont assez intelligents pour l'appliquer, ben, dans le fond, c'est pas seulement Jacky qui est visé, c'est toute l'équipe, c'est ses leaders, ses vétérans. Et j'oserais même dire, ses gardiens de but, quoique c'est très difficile de pointer vers Montembeau ou Primo pour les déboires de l'équipe au moment où on se parle. Alors, moi, je pense que on a beau interpréter, puis c'est normal, c'est correct quand on est fan d'une équipe. On a tendance à interpréter toutes sortes de choses, on a tendance à être à la fois juge et parti. Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et regarder la situation en face. Le joueur concerné avait un mauvais camp d'entraînement et un mauvais début de saison. Et rappelle-toi, quand il était allé faire un petit tour à Laval l'an passé, Denis, il était revenu bien meilleur. Là, on a choisi de tenter de le relancer en le gardant ici à Montréal avec le Canadien.
Un des dangers d'une reconstruction, c'est qu'à un moment donné, on s'habitue tellement à ce qu'on soit en reconstruction, puis à ce que tout le monde dise, ben c'est normal de perdre, on est en reconstruction, que les joueurs en arrivent à un point où ça les dérange plus de perdre. Puis je pense qu'il y en a que dans leur nature, ça va toujours les déranger.
Max, je vais t'arrêter, je suis pas d'accord avec toi. Ils ont été plusieurs à dire mardi soir, on est tanné de perdre. Et ça, là, c'est pas les moindres. Là. C'est Suzuki, c'est Jake Evans, c'est Mike Matheson. Ils ont été plusieurs à dire, là, on est tanné. Alors, c'est probablement la première bonne étape. Puis je suis désolé de t'arrêter, mais c'est parce que je trouvais ça important de le faire. Je ne pense pas qu'on assiste à de la complaisance. Je ne pense pas qu'on assiste à une acceptation exagérée qu'on s'en fout de la défaite. Moi, j'ai toujours eu mes propres bémols là-dessus, mais particulièrement avec l'équipe présentement, je te jure, là, Max, j'ai l'impression qu'on est tanné chez le Canadien. Sauf que, et moi, j'aime cette première étape-là. La deuxième, il ne faut pas qu'elle tarde. T'es tanné, ben prouve-le que t'es tanné. Sois prêt lorsque tu fais la mise en jeu initiale. Pas 15 minutes après, pas 10 minutes après, pas 5 minutes après. Et c'est ça qui a mis en rogne Martin Saint-Louis l'autre soir. Et essaie de bien te comporter dans ton territoire défensif pour arrêter l'adversaire puis relancer ton attaque. C'est devenu c'est devenu une passoire, encore une fois, dans la zone du Canadien. Alors, mais dire que les joueurs, oh, on s'en fout, puis on a notre chèque de paye, puis tout ça, moi, je pense que c'est pas le cas. On n'en est pas là, puis je pense qu'en général, on n'en est jamais là, de toute façon, dans le monde du sport.
Je voulais parler d'équipes qui ont de mauvais débuts de saison, puis je voulais te poser une question, non pas sensationnaliste, mais plutôt sensationnelle, Pierre.
Tu mets la barre assez haut.
Ouais, finalement, c'est plus une question sensationnaliste. Là, je suis en train de relire mes notes, là, mais Pierre... C'est qui va perdre sa job en premier? C'est-tu Martin Saint-Louis ou c'est Jim Montgomery?
Écoute, honnêtement, moi, je suis... Tu parles à la mauvaise personne.
Je sais.
Moi, je suis partisan de la... Hey, écoute, Jim Montgomery était mon premier choix sur mes deux derniers, ou en tout cas, mon avant-dernier au moins, relevé de vote. De l'entraîneur de l'année.
Ah, puis j'étais d'accord avec toi.
Alors, mais tu deviens quoi? Tu deviens mauvais soudainement du jour au lendemain? Tu sais, à un certain moment, les choses sont beaucoup plus larges que le simple talent ou la simple les simples décisions d'un entraîneur. Qu'est-ce que tu veux? Les Bruins, ça fait tellement ça fait quelques années qu'on dit, bon, ben éventuellement, les départs des joueurs vont laisser des trous. Ceux qui vont arriver sont-ils à la hauteur? Alors, je pense que dans les deux cas, on ne parle pas de situation où changer d'entraîneur ferait une très grande différence ou apporterait un remède miracle. Je pense que Martin Saint-Louis doit rester en poste. C'est lui qui est en train de développer, de façonner cette jeune équipe-là. Il est encore, en ce qui me concerne, le fil conducteur de première importance.
Je pense
qu'un entraîneur comme Jim Montgomery a encore une fois tout ce qu'il faut pour faire des miracles avec une équipe dégarnie comme les Bruins de Boston. Puis je vais te relancer, moi. Est-ce que Barry Trotz est un directeur général fini qu'on doit congédier parce que les Prédateurs sont 1-5?
Ouais, c'est ça.
Et que c'est l'équipe qui a le plus dépensé au 1er juillet?
La question est bonne.
Alors, c'est pour ça. Moi, je comprends qu'à un certain moment donné, tu dis, il n'y a plus rien qui passe. Le message passe plus. Mm-hmm. C'est un cliché, mais c'est vrai. Le message ne passe plus. Tu vois les joueurs de la tête ailleurs. Tu vois même des entraîneurs qui commencent à perdre un peu même leur concentration et perdre leur flamme dans certaines circonstances. J'en ai vu avec le Canadien, puis j'en ai vu beaucoup avec d'autres équipes. Ouais. Dans des cas comme ceux-là, tu dois commencer à penser à apporter des changements. Mais dans le contexte actuel, et en rappelant que la saison est encore très, très, très jeune, dans le contexte actuel, je pense que la patience est de mise et le maintien des bonnes personnes en place est encore plus important que la tentation de vouloir tout faire exploser.
De toute façon, Pierre, ça devient la solution facile trop souvent de dire il n'y a rien qui marche, on flush le coach puis on en met un autre. Puis dans le cas de ce qui se passe présentement à Boston, parce que c'est un très mauvais début de saison pour les Bruins aussi, là, si vous voulez vous consoler un peu les partisans du Canadien, il y a des images qui se sont promenées pas mal à Boston de Montgomery qui en gueule son capitaine Brad Marchand sur le banc et il y a des partisans qui n'ont pas aimé ça puis qui se sont portés à la défense de Brad Marchand puis qui ont dit que Montgomery n'avait pas d'affaire à faire ça. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Brad Marchand quand les journalistes sont allés le voir avec ça. Il dit, écoutez, il dit, quand sur la glace, je fais des erreurs comme j'ai faites, ben moi, je m'attends à ce que mon coach m'engueule comme il a fait.
Ben, tu vois, et ça, je suis content que tu apportes cette réponse-là, parce que c'est du Brad Marchand très typique, tout craché.
Oui, oui.
Et j'aime cette attitude-là. Et je pense, puis je reviens à ce que je reviens au préambule de Max. Je m'excuse encore de t'avoir coupé, Max. Je pense qu'on en est encore chez le Canadien à un très grand respect des joueurs envers leur entraîneur. Mais par contre, j'aime aussi que Martin Saint-Louis, comme il a dit aujourd'hui, peut-être que c'est un peu compliqué ma vision des choses. Peut-être que quand je l'exprime, quand je l'exige, quand je le mets sur le tableau avec mes adjoints, peut-être que c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est pas une raison pour pas l'appliquer puis pas le comprendre. Mm-hmm. Alors, il a dit, ben écoutez, maintenant, c'est aux joueurs de faire leur part. J'ai bien aimé qu'ils les mettent au défi. Puis en fin de semaine, t'affrontes quand même une équipe Marc, ils ont battu les Leafs. Et donc, ils s'amènent gonflés à bloc, les Blues, demain soir. C'est quand même une équipe, en principe, à ta portée. Puis là, le lendemain, ben, t'affrontes une des pires équipes de la Ligue à Philadelphie. Alors, je pense que la façon de faire, la nature du message, arrive à un moment crucial. Ce sont deux matchs en fin de semaine qui sont à ta portée. Puis là, on ne dira pas que le deuxième match est encore en 24 heures. Les Flyers jouent aussi demain. Ils jouent à domicile à 1 heure. Tu vas me dire, c'est un léger avantage. Mais quand on sera à Philadelphie dimanche, les deux équipes auront un match dans le corps hier. C'est-à-dire la veille, ouais. Donc demain samedi.
Pierre, avant de parler du Grand Prix du Mexique en fin de semaine, je veux revenir sur le dernier Grand Prix. J'ai écouté la fin du Grand Prix avec mes garçons, puis je veux que tu m'expliques pourquoi, malgré son dépassement, Lando Norris n'est pas monté sur la bonne marche du podium. Parce que, à un moment donné, il a dépassé Max Verstappen, puis à Mario Kart, tu peux sortir de la piste pour dépasser où tu veux, comme tu veux, prendre des raccourcis. Mais là, j'ai compris quand F1, tu n'avais pas le droit de faire ça, mais le règlement n'est pas clair à 100% non plus, là.
Bien, c'est-à-dire que le règlement est clair. On revient presque au hockey tantôt. Le règlement est clair, c'est l'application du règlement qui laisse un goût amer, surtout chez les pilotes qui demandent à la Fédération internationale, dans le briefing de tantôt, là, après les deux séances libres, qui demandent à la FIA d'éclaircir exactement ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Écoute, la règle de base, elle est très claire. Tu mets 4 roues hors piste et tu n'as pas le droit de le faire sur le plan sportif. Et là, je m'explique. Et c'est quoi hors piste? Ben, ça a été très, très bien éclairci dans le règlement il y a un an ou deux. C'est que c'est une ligne blanche maintenant qui démarque les vibreurs.
Oui.
Et 4 roues en dehors de la ligne blanche, ce n'est pas permis. Okay. Maintenant, tu appliques les pénalités. Comment et pourquoi? Si tu es en qualification, même en essai libre, mais disons quand ça compte, tu es en qualification, tu fais ça, on enlève ton résultat. Ton tour ne compte plus. Quand tu es en course, si tu fais ça pour dépasser un concurrent, tu dois lui redonner sa position parce que tu n'as pas le droit de gagner un avantage concurrentiel en mettant les 4 roues hors piste.
Même si c'est l'autre pilote qui force ta sortie de piste?
Alors là, on arrive à une autre situation. Dans le cas où un pilote est clairement en défaut d'avoir élargi sa sortie de virage et sorti de piste un concurrent, il est passible aussi d'une pénalité en temps, de 10 secondes, de 5 secondes. Donc, dans le cas qui nous intéresse, celui de la semaine dernière,
oui,
les commissaires ont établi que Verstappen n'était pas en faute en vertu de là où était Norris dans son dépassement. Parce qu'il y a aussi une règle très claire qui établit où le concurrent doit se situer par rapport à l'autre pour être en situation de dépassement. Je ne sais pas si je suis clair, là.
Oui, oui.
Alors,
oui.
Exemple, si tu as une demi-longueur derrière, ben, c'est clair que tu n'as pas d'affaire là et c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Si tu es côte à côte ou que l'adversaire ait un léger avantage, là, tu dois concéder la place à celui qui veut te doubler. On a jugé que ce n'était pas le cas dans le cas de Verstappen, qui, lui, n'a pas été pénalisé, même si il aurait été en défaut d'aller hors piste, alors que Norris avait gagné son dépassement en allant hors piste. Et si tu te rappelles la fin de la course, à un certain moment, Norris a dit à son équipe, ben j'aurais peut-être aimé ça que vous m'aidiez à réaliser le moment, parce que j'y aurais redonné sa place, puis j'aurais eu 3 ou 4 tours pour tenter de le repasser encore, alors qu'on a été trop lent à réagir et la sanction est survenue. Alors, ça fait jaser beaucoup, mais d'ailleurs, le circuit d'Austin va probablement faire l'objet d'un réaménagement de ses bordures et de ces lignes de démarcation.
À cause de ça, Pierre?
C'est-à-dire, en partie à cause de ça, mais aussi parce que, un peu comme en Autriche, c'est propice à aller hors piste, ce design du circuit d'Austin. Et en Autriche, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas tellement compliqué. C'est qu'entre la ligne de démarcation puis des bordures, donc entre la ligne blanche puis des bordures, On a mis une petite zone de gravillon. Alors, les pilotes ne veulent pas aller là, c'est sûr. Alors, on pense peut-être qu'à Austin, on fera cette même approche pour essayer de rendre les pilotes plus disciplinés, puis d'essayer de dissuader d'aller hors-piste, parce que il y a des circuits où carrément c'est trop attirant d'y aller, parce que tu as besoin de cette sortie très large pour relancer avant une longue ligne droite, par exemple.
On s'attend à quoi au Mexique en fin de semaine, Pierre?
Ben, écoute, si je te dis 372 kilomètres à l'heure et demi, ou 372 et demi kilomètres à l'heure.
C'est
la vitesse de pointe qui a été chronométrée par Valtteri Bottas en 2016.
C'est plus vite que le True Butch Rain, ça, Pierre?
C'est assez extraordinaire. 372 kilomètres à l'heure. Ben, la principale raison, c'est la rareté de l'air. En fait, la rareté et la faible densité de l'air. Tu es en altitude, comme tu sais, j'apprends rien à personne. Et l'air plus rare et l'air moins dense permet aux voitures d'avoir moins de résistance dans l'air. Et elles sont donc, elles ont moins de traînée. Et donc, elles atteignent des vitesses complètement folles. L'envers de la médaille, c'est que la rareté ou l'air plus dense n'est pas très bon pour la portion moteur. Et je ne parle pas de la batterie là, et de l'énergie alternative, mais pour la portion moteur comme telle. Mais à l'opposé, on atteint des vitesses absolument folles avec cette réalité qui touche le Mexique. Alors, ne serait-ce que ça, c'est extrêmement intéressant de regarder cette course-là. C'est un circuit que les pilotes adorent, cette longue ligne droite interminable. Et tu as le fameux stade de baseball, Denis, séparé en deux.
Séparé en deux?
Oui, alors c'était un stade de baseball, et puis on a gardé les gradins, et là, mais on a comme enlevé une section au milieu du stade, et les autos passent dans cette section,
les
deux sections du stade.
C'est peut-être ça qu'il faut faire à Montréal avec le stade olympique. Je comprends que c'est un petit détour, là, mais il faut peut-être y penser, là.
Je vais te donner un scoop, mon cher Denis. C'est que avant que Roger Peart et ses collègues mettre le doigt sur le circuit Villeneuve comme étant le circuit qui allait accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 en 1978, il y avait un projet qui amenait les voitures dans le stade olympique et le virage en épingle qui ramènerait les autos dans la portion arrière du circuit serait dans le stade olympique.
Je pense qu'on est dû pour ramener ce projet-là à l'ordre du jour, Pierre, je le sens.
Ben là, écoute, je ne sais pas si ce serait une façon de raviver notre stade, notre vénérable stade, qui n'a plus que toi pour l'instant.
Ben oui.
Mais bon, bref, je le dis sérieusement, mais je trouve ça amusant parce que tu en faisais mention. Ça faisait partie d'un des projets d'origine.
Wow.
On allait tourner dans le stade olympique et qu'on revenait sur P9 quelque part. ou sur Vio, je sais pas où.
Wow. On va vous écouter en fin de semaine du côté de RDS, évidemment. Fait que tu tapes le Grand Prix, puis après ça, tu pars à Philadelphie?
Non, je peux pas faire ça parce que la F1 est en après-midi. Hein. On est dans les heures semblables aux nôtres. On a le Mexique. Mexico a 2 heures derrière nous. Alors, je dois absolument partir avec le Canadien après le match demain soir. Donc, je fais la qualif demain. Puis c'est mon ami Frédéric qui va faire la course dimanche avec Bertrand et Patrick.
Console-toi de toute façon, Pierre, quand on va s'être branché, à savoir à quelle heure on reste, là, l'heure avancée ou l'heure d'avant, on va peut-être gagner un petit peu de terrain par rapport au Mexique.
Oui, ben c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai vu une bien bonne cette semaine. Je te laisse là-dessus une petite caricature. Puis, en toile de fond, ça dit on dort une heure de plus en fin de semaine et la vedette de la caricature ou du dessin animé, pas du dessin animé, mais du dessin, c'est un ours. Il dit, vous me faites bien rire, vous autres, à dormir une heure de plus.
Eux autres ont réglé ça depuis un bout, là.
Ils ont réglé ça depuis un bout, puis eux autres, c'est pas mal 6 mois au lieu d'une heure de plus.
Je le prendrais, le 6 mois, c'est en 7. Toi, Pierre, ça ferait-tu du bien, un petit 6 mois de dodo?
Bon, pas 6 mois, je trouve ça trop long. Moi, j'aime trop vivre, mais tu sais, des fois, une petite heure de plus ici et là, c'est...
De toute façon...
Parfois, c'est ce que ça prend pour passer au travers des choses.
De toute façon, 6 mois, là, le rasage d'après, il est longtemps, là.
Ah oui? T'as tout à fait raison.
Hey, Pierre, bon week-end!
Bon week-end, soyez prudents et patients et je vous reparle vendredi prochain avec beaucoup de plaisir.
Salut, yes, salut Pierre-Aude, notre ami Pierre qui nous parlait. On était sur la ligne téléphonique étant donné qu'on a eu des petits problèmes avec notre lien Zoom. Comment, Véro?
L'espèce de jinx. En fait, c'est les écouteurs de Pierre. Pierre avait pas ses écouteurs filaires, a emprunté ceux de son amoureuse qui sont des sans-fil. Puis il nous dit en partant, dit, j'aime toujours mieux le fil, c'est plus stable. Et paf!
Voilà.
J'étais encore un gars de fil, moi aussi. Moi, les AirPods, là, j'en ai eu. Puis je sais pas qu'à moi, je suis revenu aux vieux écouteurs d'iPhone à fil.
Tu sais, pour ma musique, c'est correct. Mais si, mettons, j'ai des meetings, je prends un fil.
Ah, moi, j'ai pas ça. Je suis pas assez important.
Un jour, peut-être.
Ouais, moi, les CD, je crois pas à ça. J'ai mon vieux Walkman jaune, là. J'écoute mes cassettes. 16h37, peut-être rappeler les problèmes de circulation, Max.
Ouais, accident, là, pont Pierre-Laporte, direction sud. Ça semble être toujours d'actualité, du moins les répercussions le sont, mais même pour l'accident en tant que tel, je pense pas qu'on en ait fini avec ça. Ce qui fait que dans le secteur des ponts, là, surtout le pont Pierre-Laporte, excessivement difficile, autant...
Excuse-moi de t'interrompre, là, Max. Non, c'est une
bête. Il s'est excusé souvent. Mais le pire, ça a rien amené à la discussion, fait que je ne l'ai pas ajouté, mais j'allais demander cette question-là, parce que certains avancent ça. Moi, je pense pas, en effet, que c'est dans la nature de joueur de hockey.
D'aimer perdre,
ou que ça les dérange pas trop. Je pense que c'est un danger qui peut exister, mais je pense pas que le Canadien en soit rendu là non plus. Mais c'est ça, très difficile, particulièrement, même si l'accident... surtout parce que l'accident est en direction sud, très difficile de passer de Québec à Lévis. Là, ça refoule assez solide, merci, jusqu'à la 40 et Charest, puis même qu'on est rendu embarqué dessus. Là, pour ce qui est de Capital aussi, c'est encore difficile, mais par rapport au secteur des ponts, c'est de la petite bière.
On s'arrête, on revient, c'est Gravel dans le retour à Boulevard. Gravel.